Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est la nouvelle émission Actualités Antifascistes. On est parti. Il est 17h04. On est là chaque quatrième mercredi du mois. Notre objectif, c'est d'analyser l'actualité des groupes, des organisations, des individus qui se réclament de diverses idéologies que nous rejetons, à savoir le nationalisme, le patriotisme, le royalisme, le républicanisme. Et du coup, pour cette première émission, j'ai entrepris de checker un petit peu la cartographie d'un collectif qui s'appelle La Horde, un collectif méchamment antifasciste, comme il se présente sur son site internet. Présentation rapide, c'est un collectif qui propose sur son site un point de vue antifasciste sur l'actualité. Et du coup, pour cette première émission, l'un des membres de ce collectif nous fait le plaisir d'être ici. Il s'appelle Hervé, et je te salue Hervé. Alors avant de te laisser un petit peu la parole, parce que j'ai deux trois questions à te poser par rapport au travail que vous avez entrepris de faire. Votre cartographie, une fois par an, vous en faites.
Un petit peu. Alors là, c'était. Oui, là, ça faisait quasiment un an. En général, c'est plutôt autour de 9 mois. Un peu comme un bébé. Mm-hmm. Tous les 9 mois, on livre une nouvelle édition.
Ouais. Alors, celle-ci date d'il y a quelques semaines, puisque vous l'avez mise en ligne en décembre 2019. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des différentes organisations, des différents groupes que vous avez mis à l'honneur pour cette année. Alors, vous répartissez en plusieurs rubriques les groupes et orgas dont vous parlez. Par exemple, vous avez une rubrique « Les partisans de l'Union des droites ». Je vais en citer deux trois groupes et deux trois individus. On a Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, les Patriotes de Florian Philippot, l'UPR d'Asselineau. Ensuite, vous avez une rubrique entièrement consacrée au Rassemblement National, avec Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, évidemment qui n'y est plus, mais
si je peux juste te corriger, en fait, pour les Patriotes de Philippot et l'UPR, ils sont plutôt dans le ni droite ni gauche. Ils sont dans la rubrique, ils sont pas dans l'Union des droites. L'Union des droites, c'est vraiment, comme son nom l'indique, déjà des partis qui se revendiquent de droite, ce qui n'est pas le cas des patriotes et ce qui n'est pas le cas de l'UPR non plus, puisque eux, ils disent se situer hors de ce clivage droite-gauche. Le Rassemblement National, c'est pareil. Ils refusent l'étiquette même d'être un parti de droite. Alors que, comme tu l'as dit, pour le coup, Debout la France, les Époux Ménard, et puis différentes structures qui sont justement pas forcément des partis, et dont une partie, quelques-uns parmi eux viennent directement des Républicains, se revendiquent de droite, mais d'une droite élargie sur leur droite.
On peut citer le cas de Gilbert Collard, qui est un petit peu.
Alors Gilbert Collard, lui, c'est l'électron libre au sein du RN, puisqu'il est un des rares, un de ceux qui, au sein du RN, bataille justement pour l'union des droites, mais c'est pas la ligne Marine Le Pen en tout cas.
On y reviendra dans les prochaines émissions, mais Gilbert Collard, il avait notamment profité d'un homme qui s'appelait Paul-Marie Couteau, qui l'avait un peu briefé, qui lui aussi recherchait l'union des droites.
Alors lui, Paul-Marie Couteau, il est à fond sur l'union des droites.
Exactement, et il est, je sais pas s'il est toujours, mais il était au ciel.
Alors le ciel existe toujours, il défend toujours cette position-là d'union des droites. Bon, pour Paul-Marie Couteau, il a eu quelques petits problèmes avec la justice, donc depuis, on entend plus trop parler.
Rapidement, le ciel, l'acronyme, c'est quoi? Souveraineté, initiative européenne, liberté, un truc comme ça.
Je pourrais pas te le dire de tête, parce qu'on dit toujours le ciel, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a souveraineté dans le premier mot.
S-I-E-L, ça, c'est sûr. Pas souveraineté avec un CC.
Voilà. Donc là, pour eux, mais après, le ciel, c'est un espèce de, c'est un micro-parti, qui est, c'est beaucoup agité, en fait, surtout en 2014, à partir de 2014, et puis après, au moment de la campagne, pour les campagnes présidentielles, en écrivant en tout cas pour Paul-Marie Couteau, en écrivant des discours pour un peu tout le monde, quoi. Tout le monde à droite, je veux dire.
Et c'était l'époque du Rassemblement Bleu Marine.
Et voilà, pour l'époque du Rassemblement Bleu Marine, lui, on peut dire qu'il est vraiment un des artisans principaux de cette stratégie qui aujourd'hui Et pas totalement abandonnée, mais disons,
elle s'est renouvelée.
Un peu de plomb dans l'aile, ouais.
Ah,
ouais.
Oui. Puis,
disons, ça s'est diversifié. On le voit pour les municipales, par exemple. Tu as clairement des candidats d'Union des droites.
Oui.
Dans plein de villes. Mm-hmm. Soutenus par le RN ou qui ont carrément l'étiquette RN et qui prônent l'Union des droites.
Thierry Mariani,
puis,
peut-être,
voilà, par exemple. Et puis d'autres, pas du tout. Hein, d'autres qui restent sur vraiment une identité spécifique au Rassemblement National, et ça je pense que bon, on y reviendra, mais c'est ça un petit peu ce qui handicape la progression de l'extrême droite institutionnelle aujourd'hui, c'est que son principal représentant c'est le Rassemblement National, et en fait ce mouvement refuse un petit peu, en tout cas Marine Le Pen elle résiste, parce qu'elle voit bien qu'il y a aussi à perdre à cette stratégie, résiste à ce qui est vraiment une tendance lourde dans cette partie de l'extrême droite, qui est d'appeler à une union de toutes les droites.
Alors, d'autres rubriques, hein, vous avez défini d'autres rubriques dans votre... parce que en fait, je reviens, parce que tu m'as dit tout à l'heure que l'UPR était plutôt dans la rubrique que vous avez appelée ni droite ni gauche. Je suis allé voir sur votre site internet, en dessous, n'est-ce pas, de la cartographie que vous avez mis en ligne en décembre. En dessous, il y a toute une série de précisions. Et moi, j'ai sélectionné, j'ai fait sur ma
Alors,
feuille là
ça,
pour
c'est vrai.
Oui,
ouais.
J'ai fait un copier-coller pour tout
c'est
dire.
C'est parce qu'on parlait du. En fait, c'était autour de la notion de souverainisme.
Ouais.
C'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est là où c'est compliqué de faire un schéma. C'est-à-dire peut-être ce qu'il faudrait dire pour les auditeurs et les auditrices. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est très visuel.
Ouais.
Mais si les gens viennent sur notre site, donc c'est lahorde.samizdat.net, et que vous regardez cette carte, forcément, le fait qu'elle soit en deux dimensions, c'est un problème parce que il faudrait faire des liens qui n'apparaissent pas. Il y a des regroupements qu'il faudrait mettre à deux endroits différents. Donc c'est forcément incomplet et un peu arbitraire. Et nous, on a privilégié vraiment la fracture entre l'union des droites et le ni droite ni gauche parce que ça nous en semblait la fracture principale. Mais en réalité, pour ceux qui se revendiquent du souverainisme, par exemple, on pourrait faire un autre regroupement d'une autre façon. En y associant, ça irait de Debout la France, pardon, à l'UPR, qui sont vraiment sur cette position-là. Sauf que Philippot et l'UPR défendent une vision du souverainisme qui ne se revendiquerait pas de droite. C'est ça la particularité, c'est qu'ils défendent un nationalisme. Parce que nous, le mot souverainisme, en fait, il nous embête un petit peu. Parce que finalement, c'est rien d'autre que du nationalisme. Bah, on voit pas trop la différence.
Souveraineté nationale.
Oui, voilà. Enfin, c'est du nationalisme avec un autre nom, hein, qui dit pas trop son nom. Et le nationalisme, on le sait, il est pas propre à la droite. C'est vrai qu'on peut être nationaliste de gauche, d'ailleurs, à la France Insoumise, ils ont bien ce problème-là.
Et on en parlera aujourd'hui.
Donc c'est pas impossible. Et du coup, Florian Philippot et l'UPR, eux, proposent d'être un petit peu le nationalisme des deux rives, comme ils disent.
Oui.
C'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, quoi. Mais ça, nous, évidemment, on le dénonce comme une imposture.
Oui, il me semble que vous avez largement raison. Alors d'autres rubriques que vous avez du coup définies. Alors vous avez par exemple les réactionnaires, les nationaux catholiques, les groupuscules activistes, et je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à différencier ces différentes rubriques. Alors par exemple dans les réactionnaires vous avez la Manif pour tous, hein, bien connue, on va en parler aujourd'hui, l'avant-garde, le Parti chrétien démocrate de Jean-Frédéric Poisson, les nationaux catholiques on retrouve Radio Courtoisie par exemple, Alain Soral. Ah non, Alain Soral n'y est pas. Excusez-moi.
Non, c'est dans
l'erreur.
Les médias.
Ouais, j'ai vu son nom affiché, mais bon. Donc Radio Courtoisie. On retrouve la nouvelle librairie hein, qui est située rue de Médicis, pas loin du jardin du Luxembourg. Civitas d'Alain Escada. Et pour les groupuscules activistes, on retrouve la célèbre Action Française.
Si tu regardes bien sur le schéma justement pour l'Action Française spécifiquement, on a essayé de créer des espèces de zones. Bicolore, puisqu'on a associé chacun des groupes dont tu parles à des couleurs, et on a essayé quand c'était possible physiquement, de créer des zones avec les deux. Et par exemple pour l'Action Française, on l'a positionné sur une zone bicolore à la fois réactionnaire.
Activiste
et activiste
aussi,
puisque c'est les deux. Pareil pour les Radio Courtoisie ou d'autres médias, Média Presse Info, des choses comme ça. On les a placés, pareil, à la fois dans médias et dans réactionnaires. Tout ça, c'est un peu compliqué. Franchement, ça a été, c'est compliqué à élaborer. Et puis c'est toujours frustrant parce que c'est assez facile de nous prendre en défaut.
Oui.
Et de dire ah bah oui, mais alors eux, c'est aussi des groupuscules activistes, etc. Bon, à un moment, faut faire des choix.
Ouais, ouais.
On peut pas mettre tout au même endroit. Il y a des contraintes physiques. On assume, on accepte bien sûr toute critique, et d'ailleurs on a publié plusieurs commentaires au bas de la carte qui venaient un petit peu repréciser les choses, et c'est très bien. Après, ce que j'ai un petit peu envie de dire, c'est que s'il y a des gens qui veulent proposer une carte mieux faite, et qu'ils la fassent.
Ah oui, non, mais de toute façon ma remarque elle va simplement dans le sens d'une clarification.
Je le disais largement pour en disant que voilà, on sait qu'elle est largement perfectible.
Ouais.
On sait qu'il y a, on pense pas qu'il y ait des erreurs, c'est-à-dire des choses qui soient inexactes. Par contre, il y a des manques, ça c'est clair. Et là, c'est pareil, c'est assumé. C'est-à-dire qu'à chaque édition de la carte, il y a des groupes qu'on enlève. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils existent plus du tout. Ou bon, en général, c'est quand même leur activité est ralentie. Et on les remplace par d'autres. Pour les individus, c'est pareil. On peut pas mettre toute la fachosphère sur une feuille A4. Je veux dire, il y a pas la place. Donc, on fait des choix. On a sorti le Raptor. On a fait rentrer Papacito.
Oui.
On aurait pu faire l'inverse. Bon, on s'en fout. À la limite, c'est juste qu'à un moment, on pointe des gens. Pour répondre aussi à des demandes, des gens qui nous disent ah bah mais c'est qui celui-là, etc. Donc on essaye de les placer sur la carte à un moment ou à un autre, et puis en fonction de l'actualité. C'est aussi pour ça qu'on essaye de la renouveler le plus souvent possible, même si là cette mise à jour, c'est pas une mise à jour majeure.
Oui,
on a repris vraiment l'essentiel de la carte précédente en y incluant disons des en l'actualisant vraiment là où normalement, chaque année, il nous est arrivé de la reprendre complètement à zéro. Mais c'est aussi, c'est pas juste par la flemme ou parce qu'on n'y arrive plus. Il y a un peu de ça. C'est vrai qu'on n'arrive plus trop à repenser le modèle. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est aussi parce que l'extrême droite, en partie, végète. Mais on en aura peut-être le temps d'en discuter.
Ouais, végète, je sais pas. Bon, on verra bien après ce qu'on entend par là. Alors, au niveau des médias, par exemple, c'est une remarque qu'on peut vous faire assez facilement. Hein. Alors, vous inscrivez sur votre cartographie des médias qui, il n'y a pas vraiment d'équivoque. Hein, leur présence sur cette cartographie justifiée, RT France, Spoutnik et compagnie. Simplement, pourquoi avoir choisi ces médias-là en particulier, sachant que on pourrait vous rétorquer que et pourquoi pas BFM TV, CNews et tant que vous y êtes, quoi. Pourquoi ces médias-là en particulier, qui sont des médias soutenus par ou financés directement par le gouvernement russe?
Alors, sur la question des médias, mais plus largement, je veux dire régulièrement, on reçoit des commentaires. Pour le coup, on les publie pas parce qu'on les trouve sans intérêt, mais que je peux le livrer à l'antenne, régulièrement, des gens nous disent « Mais vous avez oublié La République en marche, vous avez oublié... » En fait, bon, à un moment, il faut quand même dire de quoi on parle. Nous, on fixe... on a une définition qui est la nôtre. Après, elle peut être discutée de ce qu'on entend par extrême droite. C'est des gens qui mettent au cœur de leur projet la défense d'un certain nombre d'inégalités structurelles. Après, ça ne veut pas dire que le racisme, le sexisme, le nationalisme soient absents des autres formes, ou l'autoritarisme soit absent des autres formations.
Oui.
Évidemment, c'est quelque chose qui va bien au-delà des groupuscules qu'on cite. Mais nous, on dit que eux, la différence, c'est qu'ils le mettent dans la au cœur de la matrice politique qui est la leur. C'est ça la grande différence. Et donc, c'est pas pareil. Ça ne dédouane pas les autres mouvements. Ça ne veut pas dire que là, vous avez les mouvements racistes, puis ceux qui sont pas sur la carte, on considère qu'ils sont ni racistes, ni sexistes, ni nationalistes. Ça a rien à voir. On dit juste que c'est leur matrice politique, elle est ailleurs. Voilà. Alors, pour ce qui est des médias, pourquoi on a choisi RT et Spoutnik? C'est vrai que ça peut interroger. C'est pas en soi, d'abord, on le précise dans le texte, on dit bien que ce ne sont pas des médias d'extrême droite. C'est-à-dire, ils sont pas été montés, construits pour la défense d'un projet d'extrême droite. On les a mis parce que ce sont un des meilleurs relais, pour le coup, de l'activité de l'extrême droite. Et la politique extérieure, enfin, la politique étrangère russe, elle est très simple, en fait. Elle est de mettre en avant, en Europe, c'est pas que en France hein, d'ailleurs, en Europe, deux choses. Montrer que les démocraties qui font la morale à la Russie ne sont pas des démocraties, mais sont tout aussi autoritaires que la Russie de Poutine, ce qui quand même, il faut remettre les choses à leur place, est très loin d'être le cas, mais c'est la politique de RT. Et c'est pour ça que, pourquoi RT a autant couvert les gilets jaunes, couvre très largement les violences policières, c'est pour que Poutine puisse après dire à Macron, viens pas nous parler des droits de l'homme en Russie, regarde déjà ce qui se passe dans ton pays, et après tu nous feras la leçon. C'est ça l'utilisation. Et d'autre part, il y a aussi une volonté d'essayer de se créer une base pro-russe en Europe, et vers qui Poutine se tourne, vers les mouvements nationalistes, parce qu'il sait que c'est eux qui vont être le plus à l'écoute de son projet de société, qui est un projet de société qu'on peut qualifier, selon nos critères à nous, clairement d'extrême droite. Et donc, ils cherchent ces relais ici. Après, RT et Sputnik, parce qu'ils couvrent fortement les mouvements sociaux, et souvent avec un certain... Justement, c'est pas BFM TV, il les couvre en montrant les choses telles qu'elles sont quand même, ça c'est vrai, en accordant du temps long. Le fait qu'il fasse ça fait que c'est des médias qui ont une assez bonne image dans les mouvements sociaux, en particulier par exemple auprès des Gilets jaunes, mais pas seulement. C'est des choses qui sont relayées largement, et nous on dit attention, parce que ce qu'ils font d'un côté, ils le font très largement de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des sujets entiers de plusieurs heures qui sont consacrés à des activités de l'extrême droite totalement anecdotiques. Donc ça leur fait, pour eux, un porte-voix énorme. Et nous, on dénonce RT et Sputnik non seulement comme des médias poutiniens, mais surtout comme des médias qui offrent à l'extrême droite une tribune vraiment très largement surestimée par rapport à leur activité réelle. Et ça, c'est une réalité. Que les gens veuillent pas la voir, c'est une chose. Voilà. Après, on fait le distinguo quand même. C'est pas parce que c'est là où la carte est un peu problématique, c'est pas parce que les gens sont au même endroit sur la carte qu'ils sont équivalents. Mais ça, c'est vrai de toute la carte. Le Rassemblement National et le Parti de la France, ou Alain Soral, ou Civitas, ça n'a rien à voir. Le fait qu'on les ait mis sur la carte, ça veut pas dire que c'est la même chose. Ouais. Voilà. Mais en revanche, il y a des points communs, et qui fait qu'ils appartiennent à ce que nous on appelle l'extrême droite.
Alors une dernière question par rapport à la cartographie, puisqu'après on va se lancer dans le vif de l'actualité, puisque quand même tous ces groupes là ils ont une actualité et on est là pour en parler. L'Action française, au cours de l'année qui est passée, il y a eu une petite révolution de palais, si on peut dire, un petit peu de chahut chez eux, puisqu'il y a eu une scission. Alors la scission en question, là aussi c'est amusant. Pas pour nous, hein, mais c'est, disons, un peu ambigu. Ça a donné lieu à deux organisations différentes, donc l'une qui s'appelle Action française et l'autre qui s'appelle l'Action française, que vous avez inscrit sous le nom de Amitié et Action française, dirigée par Elie Hatem, que je vais pas m'amuser à présenter. On le fera peut-être dans une prochaine émission, mais bref, c'est franchement c'est ce qu'il y a de pire pour être. Et alors vous expliquez ça, ça m'a un petit peu surpris, étant donné que moi je n'ai pas trouvé ça dans mes recherches, mais peut-être que mes recherches sont imparfaites, elles le sont sûrement. Vous expliquez la scission entre ces deux organisations qui du coup portent quasiment le même nom par une fracture générationnelle qui sépare les anciens restés fidèles à l'antisémitisme historique du mouvement des jeunes qui veulent le dépoussiérer. Sur quoi vous basez exactement pour présenter les choses comme ça?
Ah bah parce que c'est assumé, hein, de la part des jeunes. Alors c'est plus qu'une scission, c'est une scission clairement, mais l'AF en a connu de très nombreuses à travers son histoire. Bon, faut quand même rappeler, c'est important, que l'Action française reste le mouvement, alors même s'il a changé de peau à plusieurs reprises, quand même ça reste le mouvement nationaliste français le plus ancien. Il existe
fin du 19e siècle.
Voilà, depuis la fin du 19e siècle, ce qui est quand même, en termes de durée pour un parti politique, je crois le seul exemple qu'on ait, je connais pas je vois pas d'autres exemples, même dans tout le champ politique, de partis aussi anciens. La Fédération anarchiste, je sais pas quand est-ce qu'elle a été montée, mais en tout cas, c'était bien après. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est quand même quelque chose qui est notable. De traverser le temps comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais évidemment, ça se fait au prix de mutation. La seule chose qui, jusqu'à présent, et c'est là où c'est à la fois anecdotique, parce qu'on s'en fout un peu de l'Action française, mais quand même, c'est intéressant de pointer cette scission, c'est que le fil rouge quand même, et qui n'a jamais été remis en question jusqu'à très récemment, c'est la pensée de Charles Maurras prise dans son intégralité. C'est-à-dire, quels qu'aient été les problèmes, entre guillemets, posés par cette idéologie, l'AF l'a toujours assumé en bloc.
Celle des quatre États confédérés, hein, par exemple.
Et puis le fait que l'antisémitisme soit au cœur de la matrice, hein, ça c'est, je crois que c'était en 1904, Charles Maurras, dans un article, il explique qu'il ne peut pas y avoir d'avènement du nationalisme sans l'acceptation de l'antisémitisme par le peuple. C'est-à-dire que c'est même pas que l'antisémitisme l'accompagne, c'est que il présuppose l'avènement de la société idéale. Et c'est pour ça que quand Pétain va mettre en place l'État français.
Le statut des Juifs de 40.
L'antisémitisme, c'est pas pour faire plaisir aux Allemands, c'est parce que on va créer une société selon Maurras, hein, c'est vraiment Maurras qui guide l'essentiel, ouais. Et au cœur de cette société, eh bien, il y a le rejet des Juifs, ça c'est tout à fait net.
Il avait qualifié l'arrivée de Pétain au pouvoir de divine surprise, hein, le rappeler. Oui.
Alors, après la guerre, évidemment, l'antisémitisme est plus difficile à assumer. Dans les années 80, cet antisémitisme va être criminalisé, ce qui va être encore plus difficile à assumer. Mmh. Et pourtant, l'AF le maintient, alors en faisant attention à pas aller trop loin pour pas risquer quand même des problèmes judiciaires, mais globalement, il n'y a pas de condamnation de ça. Et là où c'est nouveau, c'est que dans les nouvelles générations, et il y a clairement des prises de position écrites, hein, je veux dire, là, de dire, bah nous, Maurras, ok. Ça nous intéresse, bien sûr, c'est notre matière première, mais l'antisémitisme, bof, quoi. C'est-à-dire, ils veulent faire du Maurras sans l'antisémitisme pour le moderniser, en quelque sorte.
Pour éviter, comme tu disais, d'avoir des procès, d'être criminalisé.
Alors justement, les autres le faisaient déjà, attention, tu vois, mais là, c'est un peu plus grave, et c'est pour ça que les vieux, comme Elie Hatem,
ils ont pété un câble.
Eux, ils savent que si t'enlèves l'antisémitisme à Maurras, il reste rien. C'est plus pareil.
Oui.
Donc là, il comprend pas. Il dit, mais les gars, vous avez rien compris. À un moment donné, il faut rester fidèle aux fondamentaux, surtout que ce qu'ils voient bien, et moi je me mets un peu à leur place parce que moi-même je suis plus jeune, loin s'en faut, ils ont l'impression qu'il y a un héritage qui est dilapidé, quoi. Ça leur fait vraiment mal. Ils auraient bien voulu transmettre aux jeunes générations. Ça, c'est pas du tout un problème à l'AF. Au contraire, il y a toujours eu le culte des jeunes, les camelots et tout. C'est valorisé. Hein. C'est pas un mouvement de vieux croutons. Mais là, quand ils voient que les jeunes leur disent « Ok, passez-nous l'héritage, mais nous, on va en faire autre chose », alors là, les gars, ils comprennent plus. Là, ils disent « Il y a un souci à l'AF, quoi. » Et je pense qu'effectivement, c'est un calcul... peut-être quand même à courte vue de la part, parce que qu'est-ce qui va rester de l'AF si ils commencent à découper Maurras en petits morceaux et puis à garder que ce qui les intéresse. Bon, après, on va pas se plaindre que
chez eux, ça
l'antisémitisme
pète,
recule même à l'AF, mais enfin, quand même, c'est étrange.
Après, l'Action française, leur credo, ça reste quand même la restauration de la monarchie. Hein. Donc ça ils vont pas lâcher sur ça. Hein.
Bah oui, mais réellement... c'est pas, là encore une fois, pour Maurras, le régime monarchique, c'est une solution pratique, c'est pas un projet en soi. C'est pas, c'est selon lui, pour la vision qu'il a de la société idéale, c'est le régime le plus adapté au nationalisme.
Le nationalisme intégral, hein, il faut le rappeler, formule.
Le nationalisme intégral, lui, il estime que c'est la monarchie qui est le plus à même de l'appliquer, mais s'il avait une autre solution, il l'aurait pris. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas. Il y a royalistes et royalistes. Il y a des royalistes qui ne jurent que par le roi. Il y a que ça qui les intéresse. L'AF est un mouvement royaliste, mais est avant tout un mouvement nationaliste, effectivement, qui défend une vision en plus du nationalisme extrêmement exclusive et radical.
Bah on va vraiment rentrer dans le vif de l'actualité de toutes ces organisations, mais juste avant de commencer, pour vraiment bien conclure ce que tu disais, l'Action française sur son site internet, hein, là c'est dans leur manifeste, hein, ils expliquent qu'ils pratiquent le compromis nationaliste. D'accord, on est royaliste, mais là aussi ils ont vraiment le sens de la formule, si on défend l'État, la nation, la France, même sous sa forme républicaine, c'est parce que on cherche à protéger l'héritage en attendant l'éventuel, hein, là l'éventuel, c'est moi qui rajoute cette qualification, l'éventuel retour de l'héritier. Donc, pour eux, c'est ça. Restauration monarchique, oui, mais le nationalisme avant tout. Hein.
Et là, pour le coup, ils sont assez dans le... Là, pour le coup, c'est pas une trahison de Maurras.
Ah non, certainement pas.
Je pense que là, ils restent fidèles sur cette question-là. C'est vraiment sur... Ça, les vieux, ils auraient pu suivre, mais c'est vraiment sur la question de l'antisémitisme que ça a clashé.
Oui. Alors, on va rentrer quand même dans le vif, comme je le disais, de l'actualité, parce que tous ces groupes et toutes ces organisations sont présentes dans la rue, organisent des événements public, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'est pas nécessaire de traîner sur Internet pour entendre parler de, enfin, il n'est pas nécessaire d'être simplement un surfeur hein, du web pour entendre parler de ces groupes-là. Si vous sortez de chez vous et que vous allez dans telle ou telle ville, tel ou tel quartier de Paris ou d'une autre ville ou telle commune, peu importe, vous rencontrerez ces groupes-là d'une façon ou d'une autre. Et nous, on est là pour alerter et pour dire attention, ces groupes-là sont quand même dangereux. Premier d'entre eux, alors là, c'est pas vraiment un groupe, c'est un ensemble de groupes, puisque c'est ceux qui ont marché il y a 3 jours contre la, ce qu'ils appellent la PMA sans pair et la GPA. Alors leur slogan, et on va dire de quel groupe il s'agit immédiatement, hein, leur slogan c'est liberté, égalité, paternité. C'était à Paris au départ de la place de la Résistance dans le 7e arrondissement, et donc participaient des organisations comme la Manif pour tous, les associations familiales catholiques, Alliance Vita. Et alors pour se rendre compte un petit peu, la Manif pour tous, hein, sur son site, accuse le gouvernement de mettre la paternité au placard et de faire volontairement des enfants sans père qui ne connaîtront ni l'amour, ni le visage, ni la voix, ni les conseils d'un père. Rendez-vous compte de l'infamie. Bon, mobilisation prévue pour tous ces gens-là le 8 mars prochain, et oui, et aussi le 17 mai. Donc ces groupes-là continuent, sont actifs, avancent, et nous les dénonçons du fait de leur idéologie. Hein. Pour nous, la paternité est une notion franchement vague. Mettre la paternité au placard, franchement, c'est pas... on se pose même pas la question, parce que nous, en tant qu'anarchistes, finalement, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là défendent la famille traditionnelle, etc. Et c'est justement ce sur quoi on s'oppose par rapport à eux. Tu es d'accord avec ça, je pense, Hervé?
Oui, après, ce qui est quand même intéressant, c'est de... Alors, c'est vrai que la Manif pour tous, c'est plus que ça, ce que ça a été. Là, on voit qu'ils peinent sur la PMA. Alors, peut-être sur la GPA, ça sera différent, mais sur la PMA, clairement, ils n'ont pas réussi à remobiliser leurs troupes. Ils n'ont pas réussi non plus réellement à faire sortir politiquement quelque chose de viable de cette expérience de la Manif pour tous. Mais faut quand même c'était quand même il n'y a pas longtemps, hein. 2012-2015, c'était hier. Et ça a été un mouvement quand même énorme, sans précédent. Extrêmement important en termes de mobilisation déjà, c'est-à-dire ils ont mis dans la rue bien plus de monde que les Gilets jaunes réunis ou même là des grosses manifs qu'on a pu connaître dans notre camp. Et ça, il faut quand même le garder à l'esprit, avec des moyens très importants, en particulier des moyens financiers, mais aussi des moyens de diffusion de l'information à travers les réseaux de paroisses. C'est-à-dire l'instrumentalisation, parce que c'est pas l'Église catholique qui a la manœuvre. En revanche, tous les réseaux, les structures de l'Église, et en France, elles sont très importantes, c'est normal, historiquement, ont pu être mobilisées. Alors, encore une fois, c'est pas toutes les paroisses, c'est pas toutes les associations catholiques de France, mais c'est un très grand nombre d'entre eux, d'écoles privées, etc., qui se sont mobilisés et qui ont montré qu'on fait quand même une démonstration de force qui fait réfléchir, même si ils n'ont pas obtenu gain de cause sur la loi. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on peut faire les manifs qu'on veut. C'est rare que le gouvernement revoie sa copie. Donc, on serait un peu mal placé pour se moquer d'eux sur ce terrain-là. Ce qui se passe, c'est que au moment de la manif pour tous, les gens ont vraiment cru que c'était encore une fois, on sait toujours la même chose, hein, toujours le serpent de mer, que la droite allait pouvoir se reconstruire, se réinventer autour des questions de société et redevenir la droite, quoi, en quelque sorte. Mmh. Et le fait est que, pour plein de raisons, il n'y a pas eu de débouché politique vraiment solide. Que ça soit, alors il y a des structures qui existent, hein, comme Sens Commun ou des choses comme ça qui en émanent, mais qui jouent un rôle un petit peu de lobbying sur ces questions-là, mais qui n'ont pas vraiment permis l'émergence d'une nouvelle force politique à droite. Et ça, c'est peut-être là plutôt qu'est l'échec de la Manif pour tous. Et on voit bien que là, les mobilisations peinent aussi à se réinventer. C'est quand même un mouvement qui avait été très créatif en 2012-2015, qui avait inventé plein de slogans, plein de visuels, des chansons. Enfin, c'était assez impressionnant aussi de voir ça.
Oui.
Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on voit que c'est du recyclage vraiment de choses qu'ils ont inventées à cette époque-là, et il n'y a plus vraiment de renouvellement. Donc, c'est un mouvement qui tourne un peu à vide. Voilà. Et après, c'est quand même des dizaines de milliers de gens qui étaient dans la rue dimanche. C'est pas non plus à négliger. Ça doit nous faire réfléchir sur les capacités de cette mouvance.
Oui, ça vaut mieux.
Et surtout notre incapacité à nous d'y opposer une force équivalente. Puisque, oui. Que ça soit au moment de la grosse manif pour tous 2012-2015, ou même là, les initiatives, il y en a, hein, il y a des gens courageux qui ont essayé de faire quelque chose.
Nous, on essaie de faire quelque chose déjà, mais c'est pas suffisant.
C'était totalement anecdotique, ouais. Et puis surtout, ça s'est fait balayer très rapidement. Il n'y a pas de volonté dans le camp progressiste, on va dire, au sens large, il n'y a pas de volonté de faire face à cette défense de la famille traditionnelle qui pose quand même question.
Oui.
Et voilà, et ça on peut quand même, ça c'est une pierre dans notre jardin.
Ouais. Alors, sujet suivant, autre actualité, on va parler un petit peu des mobilisations, des marches qu'il y a eu en souvenir de feu le roi Louis XVI, parce que nous sommes le 22 janvier 2020 et le 21 janvier 1793, le roi fut guillotiné à Paris. Et donc, vous vous imaginez que nos adversaires ne sont pas restés en reste sur le sujet. On a eu par exemple une association qui s'appelle Souvenir du roi Louis XVI, qui a marché il y a 4 jours, donc samedi dernier, au départ de la place de la des Pyramides à Paris. Leur slogan, c'était « Puisque le roi est mort, vive le roi !» Bah tiens. Et leur objectif, qu'ils affichent sur leur page Facebook, c'est, je cite, « Raviver l'image de la monarchie en rendant hommage au roi martyr. » Bon, et pour finir, ils expliquent que les 350 personnes qui auraient participé à ce rassemblement ont scandé « La France unie pour le roi, gloire, honneur au roi Louis XVI ». Bon, là, c'est pas très compliqué d'expliquer pourquoi ce genre de rassemblement non seulement ne nous attire pas, mais nous énerve. Nous ne sommes pas royalistes. Et le coup du roi martyr et de raviver l'image de la monarchie, c'est quelque chose qu'on rejette de façon absolue. Actualité suivante, cette fois-ci c'était hier, et alors là c'est d'autres organisations royalistes que vous, la Horde, vous ne placez pas, sans doute par manque de place ou peut-être de pertinence ou surtout d'activité à mon sens, que vous ne placez pas sur votre cartographie, mais hier, donc il y avait une messe de Requiem pour le roi Louis XVI, c'était dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement de Paris, à partir de 19h, organisée par des organisations comme Scola Sainte-Cécile, Vexilla Galliae et les amis de l'Union des Cercles Légitimistes de France. Donc ça aussi, il faut qu'on en parle parce que ce sont des royalistes, mais qui ne sont pas les mêmes, tout à fait les mêmes que l'Action Française. Le slogan sur leur site internet, c'est « Unir les peuples de France dans l'amour du roi ». Et sur leur page Facebook, « Une terre, un peuple, une nation, un roi ». Voilà où est-ce qu'on en est avec eux. T'as un petit commentaire à faire, Hervé.
Comme tu l'as dit, c'est les mouvements royalistes ont joué un rôle important dans l'histoire politique de la France, mais plus aujourd'hui. Et pour certains, enfin, si on ne cite que l'Action française, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que, comme on l'a dit, c'est pour nous d'abord un mouvement nationaliste avant d'être un mouvement royaliste. Et puis surtout, c'est un groupe qui fait de l'activisme face auquel on peut être confronté. Pour ceux qui souhaitent simplement, entre guillemets, le retour du roi, bon, bah, effectivement, l'activité, c'est quelques conférences dans l'année, c'est tous les ans, hein, ça a lieu tous les ans, hein, des hommages à Louis XVI, à Marie-Antoinette. Bon, c'est vrai que ça nous intéresse pas tellement.
Bah après, dans le cas de l'Union des Cercles Légitimistes de France, ils portent quand même, ça faut quand même le savoir, ils portent quand même un prétendant au trône royal de France, Louis XX. C'est en ça qu'ils sont légitimistes. Hein, l'Action française, eux, ils reconnaissent la monarchie de Juillet de Louis-Philippe comme étant leur héritage finalement, puisqu'ils cherchaient à remettre au pouvoir le comte de Paris qui est mort récemment. Les légitimistes, c'est pas la même chose. Eux, ils considèrent que Louis-Philippe n'était pas un vrai roi, dans l'absolu c'était plus ou moins le cas, hein, vu que sans vouloir refaire l'histoire de France, il avait été nommé lieutenant général du royaume par Charles X, en attendant que Henri d'Artois soit apte à gouverner, puisqu'il avait 8 ans au moment où Charles X abdique. Dans tous les cas, les légitimistes, eux, c'est clair, veulent remettre Louis XX au pouvoir, remettre en selle le royaume de France. Y arriveront-ils ou pas ?
Je vois que ça te passionne, mais honnêtement, à part toi et les royalistes, je pense que tout le monde s'en fout. Quoi.
Tout le monde s'en fout. Eh ben écoutez, si un jour vous avez une restauration de la monarchie qui se fait, elle peut se faire.
Je crois qu'on la verra arriver. Là, si tu veux, il y a un régime monarchique qui qui quand même existe, c'est la 5e République. On voit un petit peu comment ça fonctionne très bien. Et je suis même pas sûr, comme on a, quand on a un président comme on a un président en France, je parle pas de Macron, je parle de la fonction présidentielle. T'as même pas besoin d'un roi, quoi.
Ah non, mais ça c'est clair. De toute façon, la République, on n'est pas partisans de la République hein, chez nous. En tout cas, nous sommes des anarchistes et l'anarchie.
Non, mais
pour
ce
nous,
que je veux dire, c'est que le modèle républicain, justement, et c'est aussi pour ça qu'on est qu'on s'y oppose. C'est que non seulement on s'y retrouve pas, mais le modèle républicain fait que il y a plus besoin entre guillemets. Et c'est ce que dit l'AF hein, d'ailleurs. Le modèle républicain est suffisamment a montré qu'il était suffisamment perméable à l'autoritarisme, au dirigisme pour se passer entre guillemets d'un roi.
Oui. Donc c'est pour ça que pour le moment on voit pas survenir de coup d'État.
Non, clairement la restauration, je pense, c'est pas pour.
C'est pas forcément au programme.
C'est pas pour demain.
Bon, l'avenir nous le dira. Alors, l'Action française, hein, on en a donc parlé en tout début d'émission pour évoquer un petit peu leur l'identité de ce groupe. On en reparle parce que hier ils invitaient à participer à un certain nombre de messes hein, à la mémoire toujours hein, du regretté roi Louis XVI, regretté entre guillemets évidemment. Et des victimes de la Révolution. Bon, ça, on peut pas nier qu'il y en ait eu, mais il n'empêche. Alors, ils organisaient toutes ces messes. Il y en avait une à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est située place du Louvre dans le premier arrondissement. Il y en a eu d'autres à la basilique du Sacré-Cœur à Marseille, à l'église Saint-Georges de Lyon, à l'église du Carmel du côté de Fontainebleau. Et dans 3 jours, ils en organisent une dernière pour cette année, à la basilique Saint-Nazaire la basilique de Saint-Nazaire à Carcassonne. Alors, donc, l'Action française, je le disais en début d'émission, ils affirment dans leur manifeste qui est trouvable sur le site web, c'est-à-dire que nous, on source hein, notre propos. Hein, vous pouvez, si vous allez sur le site internet de l'AF, trouver un petit peu ce qu'ils revendiquent. Aujourd'hui, bah, ils revendiquent quand même une restauration de la monarchie qui, pour eux, je cite, hein, conférerait à l'État unité, indépendance et légitimité. Alors, ils pratiquent également ce fameux compromis nationaliste dont on a parlé en début d'émission. Et là, l'objectif est clair, défendre la France et ses prolongements outre-mer et également répondre aux besoins d'autorité, de liberté et de représentation du pays réel.
Non, ça, oui. C'est là où, peut-être pour nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure sur le royalisme, enfin sur le retour du roi. Bon, le retour du roi, non. En revanche... une affirmation ou surtout et une critique très féroce de la Révolution et donc la promotion d'un discours contre-révolutionnaire assumé, ça en revanche c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à l'extrême droite française et qui la structure. C'est vraiment autour de ça que politiquement même le nationalisme en France s'est reconstruit. C'est pas un nationalisme révolutionnaire ou qui ou justement de type fasciste ou qui voudrait contrairement à ce qu'il prétend un ordre nouveau, une société nouvelle, c'est vraiment en France un nationalisme tourné vers le passé et surtout qui situe hein, pour l'essentiel des mouvements dont on parle sur la carte, quasiment tous hein, ça va de Soral à l'Action française en passant par Civitas, tous les réactionnaires qui sont quand même la partie la plus importante de l'extrême droite en France, tous situent le début, enfin en tout cas la bascule de la société au moment de la Révolution française avec l'abandon de la France éternelle, incarnée entre autres par la monarchie mais pas seulement, et surtout la promotion de l'égalitarisme, c'est-à-dire le vrai ennemi de l'extrême droite. C'est l'égalitarisme. Eux ils défendent un modèle de société qui est inégalitaire, alors ils revendiquent rarement inégalitaire parce qu'évidemment ça sonne pas bien. En revanche, ils se disent volontiers, parfois de façon très explicite, contre l'égalitarisme. Et pour eux, l'égalitarisme, le point de départ, c'est la Révolution française, c'est les Lumières, etc. Pour ceux les plus radicaux dans ce domaine-là, c'est-à-dire par exemple pour Civitas, ils vont jusqu'à défendre le retour de la chrétienté. Alors la chrétienté n'est pas le christianisme, la chrétienté c'est l'organisation de la société autour des dogmes chrétiens. Donc c'est en gros, on va pour faire court, c'est un peu l'équivalent de la charia, mais pour les chrétiens.
Oui.
Ça la chrétienté, c'est-à-dire que tout doit être subordonné. Au dogme, que ça soit les arts, la politique, l'économie, les rapports, tous les rapports sociaux en fait sont subordonnés aux principes chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui est très très largement partagé au sein de l'extrême droite, et finalement ceux qui ne s'y retrouvent pas sont assez peu nombreux, avec quand même le cas particulier du Rassemblement National, qui lui a fait sa conversion républicaine totale avec Marine Le Pen. Il y a longtemps maintenant.
Jean-Marie Le Pen n'était pas spécialement royaliste. Alors,
Jean-Marie, lui, non, mais par contre, Jean-Marie, il défendait la chrétienté.
Ah, oui, oui,
l'idéal,
oui,
chrétien, en tout cas, d'une France chrétienne, etc. C'est un discours qui est vraiment porté, quasiment pas porté, ou alors vraiment du bout des lèvres par Marine Le Pen, pour qui elle a bien compris que, enfin, en tout cas, c'est son choix. Je sais pas si elle a raison là-dessus ou pas, mais que son modèle de nationalisme, elle,
c'est la République laïque.
C'est la République, c'est sa vision de la nation, c'est clairement ça. Et en ça, il faut le dire hein, quand même, en ça, elle s'éloigne quand même
de
d'une tradition d'extrême droite, de l'extrême droite française, qui est quand même pourtant un marqueur fort. C'est tout le problème du Rassemblement National, hein, qui est aujourd'hui le parti qui à la fois incarne l'extrême droite sur le plan électoral, et en même temps qui, par certains aspects, s'en éloigne.
Et ben, on va continuer à parler du Rassemblement National, hein, ça tombe bien, puisque il y a 10 jours de ça, ils organisaient leur convention municipale 2020. C'était à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement. Alors, parmi les intervenants, on a trouvé par exemple Steve Briouat, hein, maire d'Hénin-Beaumont, Thierry Mariani, qui est député européen depuis le mois de mai dernier, Sébastien Chenu, député du Nord et tête de liste à Denain, Louis Alliot, député des Pyrénées-Orientales et candidat à la mairie de Perpignan, Jordan Bardella, que du coup vous risquez de connaître, hein, puisqu'il est député européen et conseiller régional d'Île-de-France, et pour finir, Marine Le Pen, qui est venue dire un mot en fin d'événement. Alors, les thèmes qui ont été abordés durant cette convention, hein, alors la sécurité, la lutte contre le communautarisme, l'équilibre, l'enracinement, le local et même la démétropolisation. Donc tout un ensemble de termes aussi flous que vagues. Alors pour vraiment comprendre, alors même si ça c'est censé aller de soi hein, que le Rassemblement National, nous ne sommes pas ses amis, leur slogan pour le coup c'était des villes et des villages au service des Français. Et on a eu quelques interventions de tête de liste moins connues hein, par ceux qui s'intéressent au Rassemblement National. Andrea Cotarac, Serge Federbuche qui se présente à Paris, Émeric Salmon à Rennes ou encore Françoise Grollet à Metz. Juste avant de commencer cette émission, toi Hervé, tu m'avais un peu parlé de ce Serge Federbuche qui se présente sur Paris. Hein.
Oui, parce que Bon, Paris, c'est pas non plus anodin. Alors, on sait que c'est toujours été un endroit compliqué pour le Front National et puis le Rassemblement National ensuite. Tous ceux qui s'y sont collés se sont cassés les dents. Le dernier en date, c'est Valéran de Saint-Just. Malgré une campagne un petit peu audacieuse, il s'est ramassé. Donc, plus personne vraiment ne veut y aller. Et là, le RN s'est un peu éclipsé derrière un candidat qui, pour le coup, est un candidat à la mairie de Paris de longue date. Serge Federbuche, ça fait, je crois, plus de 15 ans qu'il essaye d'être le maire de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que ce candidat, donc soutenu par la liste, par le Rassemblement National, pardon, est assez éloigné des positions officielles, pareil, de Marine Le Pen. Par exemple, c'est un ultra-libéral assumé, très 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 éloigné des position pseudo-sociale de Marine Le Pen. Lui, je pense que la réforme de retraite, il a fond pour, il pense même certainement que ça ne va pas assez loin, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez drôle de voir ce genre de choses. C'est par ailleurs un islamophobe assumé, c'est un grand ami de riposte laïque, là où aussi, pareil, c'est assez comique quand on voit comme le Rassemblement National, pareil, pour essayer d'élargir son audience, essaye de lever un petit peu le pied sur la question de l'islamophobie, même si ça reste un mouvement clairement hostile aux musulmans.
Musulmans voilà. Non patriotes, hein, parce qu'ils essaient quand même.
Alors ils essayent, voilà, c'est ça. C'est pas quand même, c'est pas du niveau d'un Zemmour où là il y a clairement une hostilité assumée à l'égard de l'islam. On voit bien que au Rassemblement National, on essaye d'être un petit peu plus prudent sur ces questions-là. En revanche, ils soutiennent des candidats, là c'est l'exemple de Federbusch, mais on pourrait en trouver d'autres, qui sont... et c'est souvent des gens d'ailleurs qui défendent toujours pareil le principe de l'union des droites, qui sont assez décomplexés à la fois sur la question de l'ultralibéralisme et sur la question de l'islam. Là, on a un exemple avec Federbusch, qui est par ailleurs une personnalité un peu étonnante, assez mégalomane, et à tel point que même au sein du Rassemblement National, il y a des dents qui ont un peu grincé quand ils ont vu que c'était lui, en disant mais ce gars il est ingérable. Je sais plus, il y avait un article du Figaro qui disait quand il a été quand l'annonce a été faite qu'il était soutenu par le RN, déjà qu'on dit mais ce gars il est un peu dingue. C'est des gens du RN qui disaient ça. Donc bon, ça c'est pour vous dire que le RN aussi fait ce qu'il peut, c'est-à-dire ils sont tellement en manque de candidats, que ça soit sur Paris ou même dans d'autres villes, que des fois les investitures sont compliquées. Même Federbusch, je crois pas qu'il ait déjà bouclé sa liste. Je crois qu'il est encore en train de demander, de chercher des noms, parce que même sur une ville comme Paris où il y a quand même du monde, une liste soutenue par le RN peine à trouver de quoi compléter les listes.
Ouais, mais alors le candidat qui s'était présenté en 2014 à la ville de Paris, c'était Valorant Saint-Just. Bon, lui, il s'est plus ou moins cassé les dents. Et vraiment, alors là, je ferme le chapitre Rassemblement National. Vous avez fait une frise chronologique sur qui s'appelle du Front National au Rassemblement National. Donc là, j'invite vraiment à aller sur le site de la Horde .saintmisdat.net pour aller voir de vous-même ce que ce collectif met en ligne comme travaux. Hein. Donc là, la frise chronologique, vous expliquez bien au dos de cette frise par rapport au Rassemblement National que c'est quand même important de le rappeler, que sa principale audience à sa création, ça a été les anciens Français d'Algérie dans le sud de la France. Hein. Notamment, on a eu Perpignan, Aix-en-Provence, Marignane...
Pour le FN,
oui. Oui, pour le FN, bien sûr. Nice et d'autres communes de ce type. Mais en tout cas, c'est vrai que l'audience, c'était pas mal les Français d'Algérie. C'était un mouvement anti-gaulliste qui regroupait des anciens de l'OAS comme Monsieur Roger Olyndre, par exemple. Donc bon, donc c'est pas très étonnant que dans des communes comme Paris, le RN soit pas si bien implanté que ça, même s'il n'y a pas que cette, il n'y a peut-être pas que cette.
C'est ça, parce qu'après t'as des contre-exemples dans le Nord, tu vois, avec Briouat, des gens comme ça, bon.
Qui sont
qui fait obstacle aussi, là où le RN est le moins fort finalement, c'est, on le voit par exemple sur la Seine-Saint-Denis, qui est aussi une terre de mission. On pourrait se dire, bah la Seine-Saint-Denis c'est une terre d'immigration, ils devraient faire des scores énormes, et en fait là où les gens sont réellement au contact de l'immigration, c'est-à-dire là où ils la fantasment pas, là où ils la vivent au quotidien, le RN peine. Il est beaucoup plus fort là où les gens craignent quelque chose qu'en fait ils ne côtoient pas ou ils ne voient pas. Et c'est aussi un petit peu la même chose sur l'insécurité, par exemple. C'est souvent là où le RN fait ses plus gros scores, c'est pas forcément l'endroit où l'insécurité est la plus élevée, mais l'endroit où le sentiment que l'insécurité augmente est le plus fort. Et puis il y a aussi d'autres causes. Là, par contre, c'est plus embêtant. C'est que pourquoi sur Paris ça marche pas, c'est aussi parce que Paris est une ville très bourgeoise et que traditionnellement le RN atteint un plafond de verre dans les couches les plus aisées. Quoique là encore, avec cette idée d'union des droites, les choses pourraient évoluer sur ce point. Mais ça reste quand même là aussi un obstacle pour lui.
Bah, disons que sur Paris, on a quand même d'autres formations qui prospèrent.
Hein. C'est ça.
Pour le moment, on a le PS qui est au pouvoir. Avant ça, on avait Tibéri et compagnie. Là, LREM qui pourrait faire quand même un score intéressant. Donc sur Paris, le RN n'est pas tout à fait en odeur de sainteté. Mais bon, à surveiller quand même évidemment pour ces municipales, surveiller leurs activités, celles des autres partis aussi, puisqu'on n'est pas uniquement anti-FN, anti-RN. Hein. Nous, dans l'absolu, ces élections, on les rejette dans l'absolu, mais ça n'empêche pas de les surveiller parce qu'il faut quand même savoir bien à qui on a affaire si on veut agir correctement. Alors, tu me fais signe que tu dois t'en aller, Hervé. Donc, tu t'en vas là tout de suite.
Bah, je sais pas, oui. Enfin, je sais pas si t'avais prévu une coupure ou.
Il y a pas de coupure hein, dans mon émission, dans notre émission. Par contre, t'avais dit que tu partirais plutôt vers 18h.
Ouais. C'est pour ça que je te faisais signe un peu avant.
D'accord. Bon, bah, c'est bien que tu. Si tu peux rester 2-3 minutes, c'est une bonne chose. Il y a aucun problème. Hein. T'as vu les lumières qui se sont allumées. Ça veut dire que quelqu'un veut rentrer dans le studio. Bah, là, on peut pas. C'est pas à nous de nous en occuper. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu d'égalité et réconciliation. Hein, donc la fameuse association, comme elle se présente, hein, d'Alain Soral, qui cette fois-ci organisait samedi dernier une conférence sur ce qu'ils appellent la révolution arc-en-ciel. Alors bon, ce qu'il faut, c'était à Lille, hein, c'était sur Lille avec un dénommé Martin Pelletier. Égalité et réconciliation, c'est quand même une assez longue histoire. Sur leur site internet, ils se présentent comme donc souhaitant rassembler les citoyens qui font de la nation le cadre déterminant de l'action politique afin de lutter contre, je cite, le système composé de la gauche bobo libertaire et de la droite libérale. Et dans leur Qui sommes-nous que je suis allé consulter, effectivement, le président de cette association, c'est Alain Soral, qui se définit comme un fervent patriote engagé dans la défense du peuple de France pour défendre un nationalisme français basé sur un État fort. Bon, voilà, là, le ton est donné, égalité et réconciliation, qui cherche, pour finir l'affaire, à constituer un front du travail patriote et populaire contre les réseaux de la finance et l'ultralibéralisme mondialisé.
Alors, bon, oui. beaucoup de mots pour pas grand-chose, parce que, en fait, ce qu'a été égalité et réconciliation, et qui est toujours, c'est un site internet. Ça, clairement, c'est la réussite d'égalité et réconciliation, c'est d'avoir réussi à structurer et de faire venir sur sa plateforme beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs déjà, et puis aussi pas mal de personnalités, entre guillemets, pas toujours très talentueuses, mais en tout cas nombreuses, autour d'Alain Soral. Sauf que les prétentions à être autre chose que ça, et en particulier être une structure politique, toutes les tentatives pour devenir un mouvement politique ont échoué. Ce qui fait qu'en fait, égalité et réconciliation, on peut encore les croiser largement sur Internet, c'est encore relayé. Soral garde quand même une audience importante, mais dans le monde réel, pour le coup, c'est pas, on risque pas de les croiser. D'ailleurs, on les a jamais réellement croisés. Quand on l'a fait, ils étaient pas bien nombreux. Et puis surtout aujourd'hui ça s'est asséché du fait même de la personnalité d'Alain Soral, qui est quelqu'un quand même qui est totalement ingérable. Oui. Alors tant qu'il drainait des millions de vues, ben les gens faisaient avec. Quand il a commencé, et c'est normal, au bout de 10 ans, les gens ont envie de passer à autre chose. Quand il a commencé à perdre de l'audience, et eh bien ça s'est raréfié autour de lui, s'est fâché à peu près avec tout le monde. Et aujourd'hui, à notre connaissance, les seules personnes avec lesquelles Alain Soral arrive encore à travailler, c'est Civitas, donc des catholiques intégristes, défenseurs de la chrétienté. Donc on est très 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 loin du projet droite des valeurs, gauche du travail, ou je sais plus quel. Oui, c'est ça.
Gauche du travail, droite des valeurs.
Voilà, on est très très loin de tout ça. De gauche, il a jamais été de toute façon question. L'antisémitisme et le sexisme outrancier restent finalement l'alpha et l'oméga d'égalité et réconciliation. Avec, et donc c'est logique, qu'ils se retrouvent avec Civitas, puisqu'ils ont ils partagent ces deux passions avec eux, mais quand vos seuls amis, c'est Civitas, et quand Civitas, c'est quand même pas une grosse structure, c'est aussi quand même une structure qui reste assez marginale, c'est quand même qu'on est, on est en fin de course. Donc, d'égalité et réconciliation, malheureusement, il est sorti. Et il a fait plus, ils ont fait beaucoup d'enfants, c'est ça un petit peu le problème. Mmh. On a Vincent Lapierre, on a des imitateurs de Soral, Converse, on en parlait. Alors qui évidemment se construisent contre la figure du père, mais en fait qui sont des Soral aux petits pieds, comme Papacito, des gens comme ça.
Conversano aussi.
Conversano, enfin voilà, des gens qui lui doivent quand même pas mal. Et qui aujourd'hui font vivre un petit peu ce que Soral a inventé. Mais franchement, si j'étais lui, je serais pas fier. C'est-à-dire le youtubeur politique réac, raciste et sexiste. Bon, c'est vrai, on peut le mettre à son crédit. C'est quand même c'est ça qui laissera en héritage, et c'est bien malheureux. Bon, maintenant pour égalité et réconciliation en tant que telle, c'est vrai que bon, il n'y a plus vraiment d'actualité.
Oui, bah là, il y avait un événement qu'ils organisaient, un événement
public. Non, mais c'est vrai, ils vendent des livres, c'est-à-dire ça continue à être un bon business, parce que je pense que Contre-Culture, c'est une maison d'édition qui marche très bien. Donc ça, c'est pas à négliger, hein, je suis pas en train, il faut pas non plus minimiser les choses. Mmh. C'est un vrai problème en termes de diffusion de livres et d'idées. Et puis, ça reste quand même une référence, même sur Internet. Hein. Il ne faut pas non plus, même si c'est plus que ça a pu être, en particulier l'écho qu'il peut avoir aujourd'hui vers les nouvelles générations est à peu près nul. Mmh. Là où, pendant un temps, il y avait une popularité de Soral, et aussi grâce au support de Dieudonné. Il faut voir que quand même la locomotive, c'était Dieudonné, parce que le talent, il était quand même plutôt là que du côté de Soral, qui quand même a toujours été un tâcheron. Dieudonné a pris ses distances, Dieudonné continue à faire son business, fait des entrées, je veux dire, il y a un public qui s'est fidélisé. Donc il y a toujours des conférences, toujours des livres, toujours des DVD, toujours un business, j'insiste là-dessus, parce que c'est surtout une histoire d'argent, hein, égalité et réconciliation. Ce qui est un petit peu comique quand on voit l'antisémitisme d'égalité et réconciliation qui dit toujours oui les juifs et l'argent, mais moi je dis surtout ER et l'argent,
bah, évidemment, c'est surtout ça, hein, c'est une entreprise qui vend des livres, c'est clairement
un business, mais ça a été démontré dans des livres. Aujourd'hui, je veux dire, c'est un secret de Polichinelle que Soral a fait ça pour s'en mettre plein les fouilles et qui continue, et tant qu'il y aura des pigeons pour lui donner de l'argent, bah il a pas de raison d'arrêter.
Oui, bon. Ok, alors là, il est 18h, donc je pense que c'est l'heure pour toi de partir.
Merci beaucoup, Hervé, en tout cas, pour l'invitation. Ouais. Et puis, sûrement, à une prochaine fois sur d'autres sujets. Je salue les auditeurs, les auditrices, et à bientôt.
Ça marche. À bientôt, Hervé, et merci d'être passé. Alors, quant à nous, on continue avec l'actualité des groupes que nous combattons. Ténézoun, par exemple. Hein, Ténézoun qui est présente pour la première fois sur la cartographie de la Horde cette année. Ténézoun qui se présente comme une communauté militante enracinée et qui organisait, c'était à Aix-en-Provence il y a 4 jours, à son local dont elle ne précise pas l'adresse. elle organisait une conférence sur la nécessité, je cite, du fabriquer en France avec la possibilité d'acheter des pulls 100% français vendus par un obscur collectif qui s'appelle le Vilain Petit Canard. Alors, Ténézoun, c'est une des très nombreuses organisations qui prétend œuvrer pour, je cite, pour le bien commun, et qui organisait il y a 8 jours un cercle de lecture autour du livre La France périphérique de Christophe Guilly, qui décrit la nouvelle fracture sociale qui se serait opérée entre la France des métropoles et la France des petites et moyennes villes. Et pour terminer l'affaire, ils établissent leur argumentaire sur l'idée de remplacement progressif des petits Français par une immigration extra-européenne qu'il faudrait endiguer. Bon, voilà quelque chose qui pour nous pose évidemment problème parce que nous n'avons pas de raison de nous opposer à une immigration d'où qu'elle vienne. Nous, c'est pas sur ce genre de sujet que qu'on est présent. Nous, notre lutte elle s'articule autour de du refus de l'État, essentiellement du refus de la République, du refus du capitalisme, mais en aucun cas par rapport au refus des immigrés, hein, ça c'est une certitude. Donc du coup Ténézoun présent dans le sud de la France, avec Aix-en-Provence, mouvement à combattre, à mettre de côté le plus rapidement possible. Lundi 24 février prochain, alors la Fondation Polémia, qui est présidée par un ancien cadre du Front National, Jean-Yves Le Gallou, organisera la 11e édition, hein, je cite, de la cérémonie des Bobards d'Or. Alors ça aura lieu au théâtre du gymnase Marie-Belle, c'est au 38 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris, dans le 10e arrondissement. La présentation de leur événement ne comporte aucune équivoque, hein. Délateur, menteur, affabulateur, censeur, les journalistes sont des petits laquais du système. Remettons-les à leur place, dénonçons avec humour cette caste médiatique. Et pour être complet dans l'analyse de cette fondation Polémia, son président Jean-Yves Le Gallou est un ancien administrateur civil au ministère de l'Intérieur, maître de conférences à Sciences Po de 77 à 83, inspecteur directeur général de l'administration, député au Parlement européen sous l'étiquette du FN entre 94 et 99, et pour terminer l'affaire, délégué général du Mouvement National Républicain, hein, qui avait été fondé par Bruno Maigret, et en plus, pour finir vraiment l'affaire, il avait écrit un ouvrage, ce Jean-Yves Le Gallou, qui s'appelle « Être français, cela se mérite » aux éditions Albatros. Bon, voilà un personnage contre lequel, évidemment, nous devons combattre, que nous devons combattre. Bon, là, on voit que c'est un personnage qui a baigné quand même dans les institutions de la République, et au-delà de ça, son idéologie nous rebute, quoi. Il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cela. Être français, cela se mérite. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est un thème vide. Et puis au-delà de ça, la description qu'il fait du monde médiatique est quand même caricaturale. Et de toutes les façons, Polemia, pour le coup, vous pouvez aller voir sur leur site internet, c'est vraiment une organisation qui fait du refus de l'immigration et du nationalisme un thème central. Bon, voilà, sujet suivant. Hop. Excusez-moi, voilà. Alors, sujet suivant, cette fois-ci, on parle de l'Union Populaire Républicaine, hein, qui est une organisation que tout le monde ne connaît pas forcément, mais enfin, qu'il est quand même bon de connaître. L'Union Populaire Républicaine qui organise dans une semaine une soirée d'information publique au restaurant L'Orasiano, c'est au 123 boulevard de l'Hôpital, dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, l'objectif énoncé, c'est, je cite, échanger sur l'actualité, le Frexit. Et alors, sur son site internet, l'UPR exprime dans son programme la volonté d'adapter notre outil militaire au service d'une France des cinq continents. Et c'est dans une partie du programme. Dans l'autre partie du programme, on a par exemple protéger les propriétaires immobiliers face aux abus de certains locataires. Bon, donc si vous êtes un minimum clairvoyant, vous voyez, vous comprenez bien que cette organisation défend l'armée française au service d'une France des cinq continents. Là, on revient vraiment au temps de l'Empire, au temps du colonialisme, in fine. Et alors, protéger les propriétaires immobiliers, ça nous fait bien rigoler. Nous, anarchistes, la propriété, c'est quelque chose que nous dénonçons, surtout quand elle a... Enfin, que nous dénonçons du fait que, finalement, c'est quelque chose qui sert à réaliser du profit sur des choses dont on a besoin au quotidien. Alors là, en l'occurrence, les propriétaires immobiliers, ce sont ceux qui sont propriétaires de logements. Et Dieu sait que nous savons que les logements sont des biens qu'il faut partager en fonction des besoins et des moyens, et en aucun cas qu'il faut commercialiser. Ça, c'est clairement un pilier de de l'idée anarchiste. Alors, sujet suivant, qui concerne cette fois-ci une organisation qui s'appelle l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne. Vous avez bien entendu, qui organisait samedi dernier une galette des rois d'amitié française. C'était au centre Charlier, boulevard Saint-Germain, dans le 5e arrondissement de Paris, en compagnie d'organisations. Alors là, on a eu Chrétienté Solidarité, TV Liberté, Radio Courtoisie... Alors, la Griffe prétend sur son site internet lutter, je cite, contre tous les racismes, et en particulier les racismes anti-français et anti-chrétiens. La Griffe dénonce aussi le racisme agressant les chrétiens et les français pour leur appartenance à la race blanche. Voyez un petit peu tout ce qui peut nous poser problème ici, hein, en référence à une race blanche qui pour nous est largement inexistante, ou en tout cas fantasmée. Le racisme agressant les chrétiens et les français, oui merci, de quoi s'agit-il exactement? La Griffe, c'est une vieille c'est une association qui est pas si vieille que ça, mais son président, lui, c'est un vieux briscard, puisqu'il s'appelle Bernard Anthony, et que c'est un ancien du Front National version année 1980. Donc bon, et pour terminer, tous ces gens-là déclarent, là c'est toujours sur leur site, hein, donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, ils déclarent combattre les mouvements et les personnes qui attaquent ou contribuent aux attaques anti-françaises et anti-chrétiennes. Bon, voilà, pour nous c'est définitivement du fait de leur positionnement idéologique, c'est définitivement une organisation à chasser, à combattre, à mettre à l'écart. Voilà, sujet suivant, hein. Donc jeudi dernier, c'était autour du carrefour de l'horloge, de proposer une rencontre au siège de son association du 4 rue de Stockholm, dans le 8e arrondissement de Paris, autour du thème « Front, je cite, hein, front anti-cosmopolite ou union de la droite ?» Point d'interrogation. Alors le coup de l'union de la droite, on en a un peu parlé avec donc notre invité Hervé qui vient de partir, hein, qui a été obligé de s'éclipser. Alors le président de ce carrefour de l'horloge, c'est un personnage qui fait un petit peu parler de lui, notamment sur YouTube. Il s'agit d'Henri de Lesquin. Henri de Lesquin qui est un ancien haut fonctionnaire, hein, qui se présente, qui explique lui-même être issu de l'école polytechnique et de l'école nationale d'administration, qui, je cite, a mis son talent et son intelligence au service de la patrie. C'est également l'ancien directeur de Radio Courtoisie, président du Parti national, d'un parti qui se nomme Parti national libéral. Et Henri de Lesquin affirme, pour sa part, vouloir lutter contre l'oligarchie cosmopolite dans le but de faire rayonner la langue et la culture française dans le monde. Bon, voilà, là aussi, un sujet d'opposition que nous, anarchistes, nous pouvons avoir, parce que lutter contre l'oligarchie cosmopolite, bon, là, c'est une formule relativement ambiguë, mais faire rayonner la langue et la culture française dans le monde, nous ne sommes pas là pour ça, hein, c'est clair. Nous ne sommes pas pour un expansionnisme culturel, nous ne sommes pas pour réaliser un front anti-cosmopolite. Et donc du coup, bah, Henri de Lesquin et son carrefour de l'horloge, eh bien, nous le rejetons et le combattons. Alors, pour passer au sujet suivant, alors je vais évoquer une organisation que vous vous attendez peut-être pas forcément à trouver dans une émission antifasciste, hein, mais vous allez voir que c'est quand même pertinent, puisqu'il s'agit de la Fédération du Rhône, du mouvement radical, qui se présente lui-même comme étant social-libéral et qui organisait hier un dîner républicain. C'était à Villefranche-sur-Saône. Alors, ce mouvement radical, hein, à sa fondation, et là, ça va sans doute vous parler un petit peu plus, à sa fondation en 1901, se nommait Parti républicain radical et radical socialiste. Et c'est une formation qui a déjà exercé le pouvoir, hein, durant la Troisième République, et notamment pendant la phase du Front populaire, avec des éléments comme Édouard Daladier, Jean Zay, Camille Chautemps. Et durant la Quatrième République, par le biais de Pierre Mendès France, Edgar Faure ou Félix Gaillard, hein, tous ces gens ont été présidents du Conseil. C'est un parti qui a participé à la création de l'UDF avec Valéry Giscard d'Estaing en 78. Et alors, sur son site internet, donc, ce mouvement radical, tel qu'il se nomme aujourd'hui, explique chercher à développer le rayonnement de la France dans le monde et rassembler tous les courants qui se retrouvent dans les valeurs républicaines. Bon, voilà, deux expressions qui ne nous plaisent pas. Développer le rayonnement de la France dans le monde, donc c'est exporter l'État français, la nation, la République française ailleurs, déjà que nous la combattons ici, pour nous ça ne sert pas à grand chose de l'exporter ailleurs, et voilà, du coup rassembler tous les courants qui se réclament des valeurs républicaines, pour nous c'est quelque chose qui effectivement n'est pas notre combat, hein. Nous essayons de construire l'anarchie, nous essayons de construire effectivement une société sans pouvoir, sans gouvernement, sans domination, et Dieu sait que, enfin, nous savons que la République est loin d'être la réponse à toutes ces problématiques. Alors, on va continuer un petit peu avec un autre mouvement qui est quand même un peu plus connu, hein, par ceux et celles qui regardent les médias, et je vous assure qu'il y a de quoi en parler dans une émission antifasciste, puisqu'il s'agit de la France Insoumise, qui tout à l'heure, alors, organise par le biais d'un certain Adrien Quatennens, qui est député du Nord. Ces gens-là organisent une réunion publique sur les retraites. Alors c'est à la maison des associations de Troyes, hein, au 63 avenue Pasteur. Alors bon, dans l'absolu, une réunion comme ça, c'est pas de nature à nous poser problème, hein, puisque même si on combat dans l'absolu le gouvernement, on est quand même attaché au fait d'avoir un revenu décent, et la retraite, effectivement, bah ça fait partie des revenus qu'il faut. Qu'il faut sauvegarder, hein, même si on reste des anarchistes, on a quand même besoin de se nourrir et de bien d'autres choses. Alors, la France insoumise est un danger, hein, faut être très clair, pour nos vies et notre survie. puisque dans leur programme, l'avenir en commun, qui avait été rédigé pour l'élection présidentielle de 2017, ils expliquent vouloir, je cite, mobiliser l'argent pour financer les petites et moyennes entreprises, créer un pôle public bancaire en vue de financer ces entreprises, et pour finir l'affaire, point numéro 55, adopter une nouvelle loi ayant pour objectif la restauration pleine de l'indépendance militaire. Bon, voilà, là pareil, on en parlait au début avec notre invité Hervé, hein, l'indépendance militaire, c'est une thématique très souverainiste et puis militariste, hein, c'est marqué dessus, qui pour nous n'est pas acceptable, hein, nous sommes antimilitaristes, et du coup on voit bien que cela va de pair avec leur idée de créer un pôle public bancaire. Donc ben, l'armée, à quoi servirait-elle et à quoi sert-elle déjà? À protéger effectivement les banques, les entreprises, in fine toutes les machines à accumuler de la richesse, de l'argent, des ressources, et à évidemment ne pas les redistribuer. Donc pour nous, la France insoumise, mouvement à mettre de côté, à chasser, à combattre. Mardi prochain, 28 janvier, c'est à 19h au Salon des États-Unis Opéra, au 16 rue d'Antin, dans le 2e arrondissement de Paris. Cette fois-ci, c'est le mouvement Synthèse Nationale qui programme une conférence, alors sur un sujet qui nous passionne pas forcément beaucoup, puisqu'il s'agit de la guerre de sécession américaine, qui nous concerne de fait pas directement, hein, nous qui habitons, pour ceux qui habitent en tout cas en France. Alors, Synthèse Nationale se présente, hein, comme, je cite, un site d'information sur le combat national contribuant au rassemblement des forces patriotiques et identitaires pour redresser la France, l'Europe et notre civilisation, avec un C majuscule. Alors c'est aussi un site qui édite des livres comme Le Grand Rembarquement ou L'Europe de Gabriele Adinolfi, qui appelle à la création d'une Europe reposant sur la défense des identités nationales. Et voilà, là aussi, un sujet sur lequel nous sommes opposés. Évidemment, les identités nationales, c'est pas quelque chose qui nous parle. Redresser la France, l'Europe et notre civilisation, voilà un discours très décliniste sur l'idée que nous vivons en pleine décadence et qu'il faut, eh bien, mettre en place, rassembler, comme ils disent. Hein. Là, c'est vraiment, vous pouvez aller voir sur leur site internet, tout ce que je dis ici est vrai. Hein. C'est sourcé. Donc leur idée, c'est ça, rassembler les forces patriotiques et identitaires pour lutter contre cette soi-disant décadence. Donc voilà quelque chose qui nous ramène dans le passé, ou en tout cas qui nous amène vers un projet qui n'est pas le nôtre, puisque notre projet, il est d'abolir l'État. Renforcer la France, l'Europe et les identités nationales, voilà quelque chose qui, pour nous, est négatif. Donc, Synthèse Nationale, hop, à mettre sur le côté et à effacer du paysage. Hier, alors là, c'était à Bruxelles, hein, donc ce n'est pas en France, hein, c'est en Belgique. C'était TV Liberté, un média, c'est une web TV, hein, TV Liberté, qui explique elle-même être la première chaîne audiovisuelle alternative de France, donnant la parole à ceux qui défendent l'esprit français et la civilisation européenne. Cette conférence était organisée à l'initiative du cercle Paul Vendrome. Alors en France, c'est quasiment inconnu, hein, puisque c'est situé en Belgique. Et ce cercle explique que la conférence en question vise à raconter l'histoire de TV Liberté, chaîne de télévision libre exclusivement dédiée à la réinformation. Voilà une formule là aussi qui effectivement est beaucoup utilisée par nos adversaires, l'idée de réinformation en opposition à des médias qui désinformeraient. Alors bon, effectivement c'est pas forcément faux, hein, bien sûr, mais l'idée de réinformation par le biais, là pareil, hein, c'est marqué dessus, hein, qui est basée sur l'idée de défendre l'esprit français et la civilisation européenne, quel rapport avec le combat anarchiste? Réponse aucun. Donc TV Liberté à mettre sur le côté, à neutraliser sans délai. On va continuer, il est déjà 18h17, on va continuer, bientôt terminer cette émission, puisqu'on termine à 18h30. Hein. Alors, il y a 10 jours, donc dimanche 12 janvier, il y avait une projection à Nogent-sur-Marne d'un film sur le commandant Élie Denoy de Saint-Marc, qui est acteur, qui vous le connaissez peut-être, hein, c'était un acteur du coup d'état des généraux commis par l'armée française à Alger un certain 21 avril 1961. Alors la projection en question était organisée par deux associations qui s'appellent respectivement le Secours de France et l'Union nationale des combattants, et ça se faisait, pour couronner tout toute l'affaire, en présence de l'ancien commandant de la Légion étrangère et ancien gouverneur militaire de Paris, Bruno Dary, qui est aujourd'hui un ténor de la Manif pour tous. Bon, voilà, là, défendre un militaire putschiste, c'est évidemment pas notre credo, hein, et un militaire déjà tout court, c'est pas vraiment notre combat. Bon, et là en plus, le Secours de France, dont le siège est situé rue de Sablonville, hein, c'est à Neuilly-sur-Seine, explique sur son site internet être né suite aux tragédies vécues au moment de l'indépendance de l'Algérie par les populations européennes chassées dans des conditions dramatiques d'un pays que leurs ancêtres avaient fondé. Bon, voilà, là aussi on a une sorte de révisionnisme colonial qui est à l'œuvre, et au-delà de ça, un combat effectivement très tourné vers l'idée nationaliste et militariste, puisque effectivement ils organisaient leur projection en partenariat avec l'Union nationale des combattants. Donc voilà quelque chose qui, pour nous, n'est pas acceptable, et donc nous dénonçons ce genre de rendez-vous et les associations qui se permettent de les organiser. Alors, on a eu dans la même optique, hein, on aura lundi prochain à 19h30, organisé par un obscur cercle Gustave Thibon, une conférence d'un certain Bernard Lugan, qui se présente comme un africaniste, sur le thème, je cite, « Comprendre les guerres du Sahel », ça aura lieu au Centre culturel Valérie Larbeau, c'est à Vichy. Alors Bernard Lugan, qui est ce personnage, c'est le directeur d'une revue qui s'appelle « L'Afrique réelle », il est auteur d'ouvrages comme « L'Atlas historique de l'Afrique »,« Algérie, l'histoire à l'endroit » ou encore « Osons dire la vérité à l'Afrique ». Alors bon, jusqu'ici rien de forcément scandaleux, si y a rien de forcément très éloquent, mais Bernard Lugan, c'est quand même quelqu'un qui explique sur son blog, dans un billet qui est daté du 13 janvier dernier, que la colonisation française en Afrique a apporté la paix, qu'elle n'a pillé aucune ressource ni matière première, que les vraies victimes de la colonisation européenne sont les Européens, et que la France est aujourd'hui la colonie de ses anciennes colonies. Bon, voilà un discours qui évidemment n'a ni queue ni tête, et qui pour nous ne veut strictement rien dire, quoi. Nous sommes anticolonialistes, et comment pourrait-on justifier que la colonisation causerait finalement la perte des colons? Alors, c'est peut-être vrai dans l'absolu, mais là, expliquer que les vraies victimes de la colonisation européenne sont les Européens, c'est quand même vraiment gros comme mensonge, et pour nous effectivement, c'est dénonçable. Donc du coup, Bernard Lugan, hop, à mettre sur le côté, à neutraliser rapidement. Nous avons également le Parti chrétien démocrate qui organisait, c'était il y a une semaine, hein, à l'Escale lyonnaise, qui organisait une soirée de vœux en compagnie d'Agnès Marion, tête de liste au municipal, et de Jean-Frédéric Poisson, son président. Alors, jusqu'ici rien là non plus, hein, de très très significatif, mais vous allez voir que le Parti chrétien démocrate n'est évidemment pas notre ami. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans ses propositions portées lors de la campagne pour les primaires de la droite en 2016, le PCD explique qu'il souhaite, je cite, favoriser un capitalisme d'entrepreneurs, favoriser également l'émergence d'entreprises à visée sociale et supprimer le droit du sol pour faire de l'accession à la nationalité française le point d'aboutissement d'un vrai parcours d'intégration. Voilà un peu les éléments qui font leur identité. Donc on voit bien que effectivement dans leur programme, capitalisme et nationalisme vont de pair, ce sont les piliers de leur idée, de leur idéologie, ils le disent eux-mêmes. Donc favoriser un capitalisme d'entrepreneurs, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, sinon quelque chose de nuisible, et supprimer le droit du sol pour finalement définir la nationalité française d'une manière ethnique, biologique, sanguine, pour nous voilà des choses dérangeantes, pour le moins dérangeantes. Et si vous vous rappelez bien aussi, le Parti chrétien-démocrate, c'est l'ancienne formation de Christine Boutin. Donc là aussi, si vous la connaissez, et vous la connaissez, j'en suis persuadé, c'est évidemment pas le genre de personne avec qui nous avons des relations, ou en tout cas c'est pas le genre de personne avec qui nous devrions en avoir, hein. Donc Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson à écarter, à neutraliser là aussi au nom de l'anarchie. Nous arrivons bientôt à la fin, donc je suis en train de regarder. Il nous reste 2-3 actualités à traiter. Encore faut-il que je les retrouve. Je vous demande un petit instant, voilà. Le mouvement alsacien enraciné, Vent d'Est, qui se présente comme tel hein, sur sa page Facebook, a inauguré vendredi dernier, c'était le 10 janvier, à son local. L'adresse n'est pas connue parce qu'elle n'est pas précisée. Ils font très attention à ne pas la préciser, hein, peut-être ont-ils peur. Donc ce mouvement a rédigé un communiqué le 3 janvier dernier avec les passages suivants. Ce 31 décembre, le péril français a montré une fois de plus l'ensauvagement du pays causé par l'immigration orchestrée par la racaille d'en haut. Et il explique également donc ce communiqué que ceux, je cite, hein, qui sont censés œuvrer pour l'intérêt des Français sont dépassés ou pire complices. La police était-elle sûrement trop occupée à verbaliser les travailleurs français profitant de leur dernier jour de congé. Bon, voilà, là aussi une distinction qui est faite par ces gens-là entre immigrés et Français, travailleurs français et immigration orchestrée par la racaille d'en haut. Ces gens-là ont le sens de la formule et nous avons le sens du combat, de la percussion par rapport à des gens comme ça. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand même, et la Horde en parle hein, dans la cartographie qu'on a présentée au début de l'émission, Vent d'Est, comme Ténézoun, dont on a parlé tout à l'heure, ce sont des anciens organismes qui ont fait partie du bastion social. En fait, le bastion social a été dissous l'année dernière par Emmanuel Macron, qui a voulu taper un peu du poing sur la table par rapport à tous ces groupes un peu activistes. Et du coup, bah, le bastion social Strasbourg, le bastion social Marseille, le bastion social Chambéry a du coup rendu l'âme. Et du coup, on a vu débarquer toute une myriade d'associations qui ont finalement, qui ont changé de nom, mais qui n'ont malheureusement pas changé, d'idéologie. Alors, il est 16h26. Pour ma part, je vais rendre l'antenne parce que il est 16h26. 17h26 plutôt, excusez-nous. En plus là je me trompe dans l'heure. Excusez-nous parce que dans le studio, on a des pendules qui sont absolument pas à l'heure. Quoi qu'il arrive, il est 18h26. Désolé pour cette petite erreur. 18h26 minutes sur Radio Libertaire 89.4 FM sur Paris et dans toute l'Île-de-France. D'ici 3-4 minutes, vous avez rendez-vous avec l'émission Femmes Libres. Quant à nous, on se retrouve dans un mois. On est présent le 4e mercredi de chaque mois. Donc rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro d'actualités antifascistes. Actualités antifascistes au pluriel. D'ici là, je vous souhaite un bon mois de lutte, un bon mois de combat anarchiste, et à dans un mois pour une nouvelle émission. À bientôt, bonne écoute de la suite des programmes sur Radio Libertaire. À bientôt, salut.